Interview.
2. Salut Arnito.
Ben, salut à toi Baptiste.
Comment ça va?
Bah écoute, je suis ravi d'être ici à Die, de découvrir la ville, hein, parce que c'est la première fois que je viens ici avec mon épouse. On a une très bonne première impression de la ville, ça nous a donné envie d'en découvrir un peu plus même.
Une guitare 7 cordes, c'est brésilien ça, non?
Alors effectivement, c'est vachement populaire en Russie à l'origine et au Brésil surtout. Maintenant, voilà, alors moi je joue pas vraiment de musique brésilienne, mais c'est plutôt un besoin d'élargir la tessiture et d'offrir de nouvelles possibilités, de rechercher aussi, parce que j'ai beaucoup joué de la guitare à 6 cordes, comme quasiment tous les guitaristes, j'imagine. Et puis au bout d'un moment, on a des automatismes et tout, et on a envie de se remettre dans le côté recherche, et puis remettre en route le côté instinctif. Donc voilà, je me suis mis il y a 3 ans à la guitare à 7 cordes.
Voilà. Qui rajoute une corde grave.
Voilà, exactement, ouais.
Ouais. Ouais. Cette origine russe, t'en as l'historique, toi?
Non, alors je sais pas du tout, non, je peux pas t'en dire plus, je sais juste que c'est... Même maintenant, quand on voit des... Enfin, moi je suis jamais allé en Russie, mais je vois souvent, des fois des vidéos sur YouTube, et tu vois, je vois des mecs qui jouent souvent des guitares à cette corde, ouais, voilà. Mmh.
Ouais. Et par contre, son passage au Brésil, ça, est-ce que tu...
De près, ce que je sais, c'est que les Brésiliens les ont un peu piqués aux Russes. Mais alors, je ne sais pas comment historiquement, c'est de voir des Russes qui ont immigré au Brésil. Je ne sais pas, je connais pas l'histoire. Non, non, désolé.
Arnito, tu es ici dans le Dioa aussi parce que tu as joué là tout récemment au Temple de Poney.
Voilà, c'est ça, ouais.
Comment c'était ?
C'était très sympa, ouais, vraiment. On a beaucoup apprécié l'acoustique du temple déjà. et l'accueil de l'association des les Amis du Temple de Poney, qui organise régulièrement des concerts dans ce lieu.
Voilà, un petit coucou au passage, vous auriez pu venir nous en parler juste avant. Tu disais, je joue pas du tout de la musique brésilienne. C'est quoi ta musique en fait ?
Alors, en fait.
Là, par exemple, sur ce morceau d'introduction.
En fait, moi, j'aime beaucoup écouter plein de choses, quoi. J'ai pas mal d'influences et dans mon éducation musicale, je fais pas mal de jazz, et de musique actuelle et tout. Mais je me considère pas comme un musicien traditionnel, c'est-à-dire que moi, c'est surtout la couleur flamenco dans pas mal d'albums et de compositions. Même si au début j'ai essayé d'apprendre forcément les bases et les comprendre les rythmes, après j'essaie de c'est plus comme des influences tout ça, toutes ces musiques comme la musique brésilienne, la musique indienne ou c'est-à-dire j'écoute, je voyage, je rencontre des gens, mais après je les intègre un peu à ma sauce, quoi. Je fais des compositions qui sont de la fausse musique espagnole, la fausse musique brésilienne, tout ça, ou de la vraie musique de moi, je sais pas.
Il y a un côté trans dans ta musique, et puis on sent qu'il y a peut-être une partie improvisée aussi, non ?
Ouais, alors tout à fait. Déjà la partie improvisation, ça me parle parce que j'ai du mal à me tenir à une partition. Déjà au début, j'ai mon prof de guitare classique a eu pas mal de fil à retordre parce que c'est pas fait pour moi de suivre une partition en musique classique ou quoi. Et puis même dans les quand je joue ou quand j'enregistre, c'est toujours il y a une couleur ou une base qui est là, mais après le fait de garder de la liberté, ça pour moi c'est plus simple, quoi. Je sais pas, ça ouvre plus de portes, voilà.
De toute façon, je l'ai déjà souvent dit ou évoqué avec d'autres musiciens à cette antenne, l'improvisation a forcément des bases. On a ce qu'on appelle des petites phrases. Ouais. Et puis là-dedans, on se fait plaisir. Tiens, puisque tu l'évoques comme ça depuis le début, fais-nous ton parcours musical. Hein. Pas le tien personnellement, hein, c'est bon. Mais musicalement, à quel moment t'attaques, par quoi, où t'es passé ?
Avant de commencer la musique, en fait, à 12 ans, j'ai commencé à écrire des chansons, quoi, mais sans connaître d'instrument. Mais mon père était guitariste, donc c'est lui qui m'a montré un peu après les bases de la guitare quand j'avais vers 13 ans. Et à l'époque, là, j'étais plus attiré par tout ce qui est hard rock, AC/DC, voilà, j'étais assez fan. Et donc, je rêvais de jouer de la guitare électrique, tout ça. Donc, j'ai commencé plutôt dans cette veine-là, rock, hard rock.
Pardon, quand tu écrivais des chansons, tu écrivais des notes ou des paroles ?
Juste des mélodies avec des paroles, voilà.
Ah, quand même, ouais.
Voilà, et puis le fait d'écrire des chansons, moi, je l'ai gardé pendant plusieurs années. Puis maintenant, j'écris plus vraiment de textes, je sais pas, c'est peut-être une période. Mais voilà, donc au début, c'était plus En fait, je serais tenté de dire un parcours un peu normal, c'est qui va avec l'évolution humaine, quoi. C'est-à-dire qu'avec les passages de l'adolescence un peu rebelle, jusqu'à... Je sais pas si c'est un peu prétentieux de dire la maturité, mais parce que je sais pas si je suis vraiment mature, mais une évolution logique.
Donc quand t'étais ado, t'écoutes du hard rock, t'essaies d'en jouer ?
Ouais, bien sûr, ouais.
T'en as joué, même ?
Ouais, les cheveux poussaient à cette époque.
Quel style de hard rock, tiens ? Ouais, à part AC/DC, bon, ok, mais...
Ouais. Moi, j'aimais bien Megadeth. Ouais. J'ai eu une période assez rock progressif et puis metal progressif, là, Dream Theater, tout ça. Il y a aussi autre chose, c'est que quand on commence, on voit que les doigts bougent un peu et tout ça, et on se dit, ouais, on est un bon musicien et tout. Puis après, en fait, plus ça va dans la musique, enfin, dans mon cas, hein, je parle, et plus on s'aperçoit qu'en fait, on connaît rien, on réalise l'étendue de notre ignorance. Et puis surtout, on s'ouvre à d'autres musiciens, d'autres styles de musique. Et là, on découvre, on dit, ouais, c'est pas possible, c'est tellement infini, quoi. Il y a plein de choses à faire. Exactement. Et on prend un peu des influences partout, des couleurs par-ci, par-là, et on les intègre progressivement. Pas forcément consciemment, d'ailleurs, je pense que ça devient un peu, comme un langage où on prend quelques mots sans forcément l'analyser, dire voilà, la racine latine est là, ou je sais pas. Donc ça vient naturellement. Et puis les compositions, c'est pareil. Moi, même si j'ai des bases d'harmonie et des connaissances de la musique, chaque fois, en fait, quand je reviens à composer, finalement, c'est toujours un peu le côté instinctif qui revient. Et je tâtonne et puis je trouve des mélodies. Des fois, il y a des morceaux qui viennent comme ça en deux secondes, et d'autres, c'est étalé sur des mois ou des jours. C'est un procédé assez difficile à analyser, en fait.
Tu saurais pas dire si après le métal, il y a un style musical qui t'a frappé, qui t'a permis, au contraire, de t'ouvrir justement à tous les autres.
Si, y a le flamenco, ça a été pendant très longtemps ma grosse passion. Ouais, juste après la période métal, j'ai écouté Paco de Lucía, Vicente Amigo, ces gens. Je me suis dit, oh, j'ai qu'une envie, c'est d'aller en Espagne, d'apprendre et de comprendre aussi. Donc pendant des années, j'ai fait que ça. Et puis ça m'a un peu lâché, disons, mais c'est toujours resté présent et omniprésent dans ma musique, je pense. Mais ouais, après, c'est plutôt, comme je disais juste avant, c'est des choses qui sont venues au fur et à mesure, comme ça, des choses qu'on ne comprenait pas et qu'on apprend à apprécier, comme des couleurs un peu contemporaines ou des harmonies subtiles. Je sais pas, par exemple, moi, Debussy, quand j'avais 13 ans, ça ne me parlait pas plus que ça. Et maintenant, c'est Debussy, Ravel, c'est des compositeurs merveilleux, quoi, je trouve. Voilà, je suis assez fan de Keith Jarrett aussi. C'est
pianiste.
Voilà, exactement. Un génie.
Un génie de la musique. Ouais. Et de l'impro.
Voilà, exactement. Donc ça, je pense que c'est des gens aussi qu'on apprend à apprécier, quoi. Enfin, il y a peut-être des gens qui ont la chance
d'entrée de jeu.
Voilà, ouais, c'est vrai. Mais dans mon cas, quand j'étais adolescent et tout, j'étais un peu fermé. Voilà, c'était plus l'attitude, genre on a des t-shirts noirs, les cheveux longs, et on veut surtout pas entendre d'autres styles de musique. Et puis progressivement, je pense qu'on s'ouvre. Voilà.
Ceci dit, même dans ton parcours de métal, t'as cité que deux groupes, Megadeth, c'est sûr que vous étiez très très noir et très très cheveux longs. Par contre, Dream Theater, c'est vraiment de la technique, très 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 technique, ouais. Au niveau guitaristique en tout cas.
Ouais.
Tu me parles du flamenco après, alors effectivement, qui ne branle pas mieux son manche qu'un guitariste de flamenco, c'est le terme qu'on emploie, en toucher, etc. Donc t'es quand même assez rapidement attiré par la technique, la rapidité du jeu sur la guitare.
Alors, curieusement, non, pas du tout. Ce qui m'a... Enfin, oui, pour le côté technique de Dream Theater, je suis tout à fait d'accord. Mais justement, je pense que quand j'étais dans cette époque métal et tout, j'étais très impressionné par la technique. On se dit, ouais, ça joue vachement vite, c'est très puissant et tout. Mais en fait, je pense que justement, le côté flamenco, c'est pas le côté technique de la guitare qui m'a attiré, c'est plutôt le côté... c'est une musique très profonde et où ça triche pas, où il y a des émotions très fortes qui véhiculées, même si bien sûr après le côté technique est là, mais moi c'était plutôt le côté les chants profonds et très, très puissants, ça peut faire pleurer, alors que des choses vraiment purement techniques, ça impressionne, c'est comme un beau feu d'artifice, mais bon, après c'est personnel bien sûr, mais voilà, ça se discute.
Il y a moins d'émotions.
Voilà, ça se discute côté émotion. Voilà, c'est mon avis, quoi. Voilà. Donc, ouais, moi, ce qui m'intéresse, même dans les concerts que je fais maintenant, c'est pas... Bon, même si après, c'est marrant, il y a toujours des gens qui disent ouais, « ça joue technique et tout ». Moi, je me considère pas du tout comme un virtuose ou un... C'est plus le côté, justement, essayer de toucher les gens. Je pense que, d'ailleurs, c'est même souvent plus difficile de faire quelque chose de simple et qui touche que de faire quelque chose d'impressionnant et voilà.
C'est bien dit. Je peux pas te retirer ça. Merci Arnito. Quand même, pour qu'on écarte un petit peu le côté technique, tu as parlé de prof de guitare classique. Alors, est-ce que tu es allé prendre des cours quand même?
Oui, oui.
Qu'est-ce que ça t'a apporté? Pourquoi? À quel moment tu le fais?
Au début, dès le début, en fait, j'ai pris des cours de... au début, j'ai fait 6 mois de guitare classique. Et après, c'était qu'avec des profs de ma région. Donc, moi, je suis originaire d'Annecy. Hein. Donc,
c'est vrai, on ne l'avait pas dit.
Donc, voilà, il y avait...
Salut Léo Savoyard.
Voilà, donc, j'ai eu plusieurs profs de guitare électrique, notamment Christophe Godin, qui est une pointure de la guitare électrique. J'ai suivi le MAI, c'est une école de musique à Nancy. Musique Academy International, donc ça c'est plutôt musique actuelle au sens large, je dirais. Puis après, je suis revenu à Annecy donc pour le conservatoire en jazz et puis à Chambéry aussi, les départements de jazz des conservatoires. Et puis surtout, je suis allé tous les ans en Espagne aussi pour le côté flamenco. C'est plutôt en rencontrant des gens, des gitans, tout ça, que j'ai un peu appris. J'ai pas vraiment pris de cours particuliers, quoi, mais j'ai appris comme ça en rencontrant des gens.
Et en jouant beaucoup?
Ouais, beaucoup.
C'est quoi ta fréquence de jeu? Tous les jours? Tout le temps?
Ouais, c'est tous les jours. Ouais.
Tu dis que t'es venu avec ta femme, elle hoche la tête là comme ça. Ça se voit pas à la radio, mais.
Ouais, bah en fait il y a des périodes où on peut comment laisser un peu la guitare de côté, mais la musique est toujours présente en tout cas. C'est même si elle est pas là, on y pense et puis s'il y a des choses qui mûrissent, c'est un besoin quoi. Voilà. Après il y a des comme maintenant il y a des tournées, donc là je suis obligé d'en jouer tous les jours parce que surtout que je joue que dans des chapelles, des églises, donc c'est les gens ils viennent et genre il y a le silence et ils écoutent, donc on n'a pas le droit à l'erreur. Donc là, faut pratiquer un peu tous les jours. Mais sinon, après, comme à d'autres périodes, quand c'est juste un voyage ou repos, là, je ne suis pas obligé d'en jouer 10 heures par jour. C'est plus relax, quoi.
Je ne suis pas obligé, mais je le fais quand même. Arnito, alors, c'est rigolo, ça. Donc, en solo, d'accord. Mais tu joues que dans des chapelles et des églises. Mais pourquoi ?
Alors, en fait, je ne joue pas que là-dedans. Mais pour cette tournée, cet été, en fait, c'est effectivement, j'ai choisi... que des lieux tels que temple, église, chapelle, parce que c'est d'abord le côté acoustique. Les murs, ça se prête en général bien.
Tu peux du coup l'habiller, retrouver avec un concert tout seul, quoi.
Exactement.
Avec un orchestre, pardon.
Exactement, ouais. Et puis surtout, les gens viennent déjà, c'est des lieux qu'ils respectent. Et ils viennent déjà dans l'esprit d'écoute, d'attention, quoi. C'est pas comme d'aller jouer dans un bistrot où les gens vont boire une bière à côté, quoi. C'est plus de crédibilité à ma musique. Et puis, c'est des cadres qui sont propres aussi à la méditation, je sais pas, mais à la spiritualité. Moi, je suis pas quelqu'un de religieux, mais en tout cas, chaque fois que je rentre dans une église et que je me pose avec ma guitare, je ferme les yeux et j'écoute les murs me parler et renvoyer l'écho de l'instrument, c'est sûr que ça... Ça inspire, quoi.
Et puis cette sobriété, de quoi qu'il se passe, effectivement, il y a un côté solennel que les gens respectent.
Voilà.
Et puis il fait tellement frais là en ce moment pour une tournée estivale. Hein, on est content d'être dans ces salles-là.
Ouais, c'est sûr. Hier au temple de Poney, on est rentré, on était bien content.
Ouais. Et puis à chaque fois, quand même, aussi de rencontrer des équipes qui ne sont pas toujours des religieux, comme tu dis, mais plutôt des gens portés par un lieu qui a son histoire et qui peut avoir une spiritualité en tant que telle.
Exactement. Puis voilà, des gens aussi comme, je vais revenir au concert d'hier, par exemple, parce que c'était j'étais à côté. Voilà, c'est des gens, par exemple, hier, dans le temple, ils ont monté l'association pour le restaurer, pour restaurer le temple. Sinon, s'il n'y a pas des gens comme eux qui le font, le temple, il dépérit et il ne se passe plus rien. Et en plus, c'est un petit village, donc c'est un peu dommage, quoi. Donc voilà, d'organiser des concerts ou des expositions, ça fait vivre les lieux. Et aussi, je trouve que c'est un lien social. Après les concerts, les gens, ils repartent pas tout de suite comme ça. Ils restent parfois entre eux, ils discutent du concert ou ils discutent avec les organisateurs ou les associations locales. Il y a un côté social aussi, hein, je pense.
En ayant traversé l'Espagne et puis pour t'imprégner du flamenco, une Espagne qui est très, très catholique, est-ce que quand même... Tu as ton avis là-dessus ? Est-ce que c'est pour toi quelque chose qui est obligé de transpirer à travers ta musique, même si tu l'as adaptée, parce qu'elle a une histoire liée à la religion également ?
Alors, le côté religion de l'Espagne, je dirais que c'est pas... Non, j'y pense pas vraiment, pas spécialement. Par contre, moi, c'est plutôt la couleur de la musique, quoi. Il y a un mode et une force. C'est plutôt ça qui transpire dans ma musique, je pense. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, hein, et imprégné, quoi.
Mmh. T'as réussi à mettre ça de côté ? Quand je pense à toutes les cantidas, toute la musique arabo-andalouse, t'as réussi à ne prendre finalement que la fibre musicale ?
J'ai pas réussi, j'ai pas spécialement cherché à prendre quelque chose ou quoi. C'est-à-dire que dans ce qui reste dans ma musique, c'est une couleur, je dirais. Mais pas le côté vraiment purement traditionnel avec les règles. En fait, voilà, c'est ça qui me convient pas spécialement dans la musique, c'est d'avoir trop de règles imposées et dire voilà, tel morceau, ça a forcément 12 temps. Alors c'est bien quand on joue avec d'autres gens, mais quand on veut faire vraiment ses propres créations, je trouve que ça met plus de limites que ça ouvre des portes, quoi. Alors, ce qui est dommage, parce que je trouve que les gens qui sont vraiment puristes, ils oublient une chose, c'est que la tradition, elle vient d'une évolution, quoi. Elle n'est pas née comme ça, du jour au lendemain, quoi. Et pourquoi, à ce moment, arrêter la tradition à tel endroit, alors que le monde, il évolue, il continue d'évoluer, quoi. Et c'est plus le même monde dans lequel on vit, et c'est plus les mêmes influences.
Plus les mêmes instruments, parfois.
Exactement. Plus le même climat, plus les mêmes lieux, qu'il y a il y a parfois des centaines d'années. Voilà, c'est par exemple, bah, je vais en revenir, tu parlais des créations tout à l'heure, donc dans un des derniers albums que j'avais fait, c'était, qui s'appelle Ir. Donc voilà, c'est justement, j'étais parti du flamenco, mais justement, j'avais fait un petit détour par rapport à la tradition, justement en changeant les racines du traditionnel, quoi. C'est-à-dire que j'avais fait des morceaux, justement, pas dans les mêmes cycles rythmiques que ceux qui sont habituellement joués.
Par exemple, pour les puristes du flamenco, si t'en as eu, qui ont écouté cet album, s'en sont-ils rendus compte ? Est-ce que c'est quelque chose qui les a dérangés ?
J'ai pas eu des puristes, donc j'ai pas de retour de puristes. Je pense que les puristes, dès qu'ils vont voir ce qui est marqué derrière, ils vont même pas l'écouter.
Ah ouais.
Mais par contre, des gens qui aimaient bien le flamenco sans être forcément des gros spécialistes, en général, ils ont bien aimé parce que justement, enfin, j'ai pas non plus dénaturé complètement le truc et je pense, enfin, voilà, après, je n'aime pas trop parler de ma musique et tout ça, mais je pense que j'ai gardé le côté, le caractère et enfin l'essentiel de la musique, quoi. Même si après, c'est pas exactement traditionnel. Je pense que l'essentiel est là avec des petites variations, quoi.
Puisque tu nous parles de cet album Ir, eh ben on va laisser les auditrices et les auditeurs juger avec le morceau que tu nous as choisi, Armura Vecchi. Ça se dit comme ça.
Alors là, en fait, ouais, d'accord. Le problème, c'est qu'il a vraiment plus rien à voir avec de flamenco.
Bah, tant mieux.
Voilà.
Parfait. We'll be right back. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais on est quand même à l'écoute de Erdiwa sur le 107.5 FM et sur le www.erdiwa.fr. Ça m'arrive rarement, mais j'étais porté par ton morceau d'introduction, Arnito. On vient de s'écouter un morceau extrait de ton album Ear, qui donc sonne pas du tout comme tu nous le décrivais juste avant, mais ça nous permet de glisser tout doucement vers ces albums. Si je compte bien, t'en as 12 déjà.
Ouais.
Enfin, 12 que tu veux bien me montrer, ça se trouve, t'en as d'autres encore.
Bah, il y en a un qui va bientôt sortir, là.
Ah, voilà. Donc, un 13e. Grosse production. Depuis quand est-ce que tu sors des albums ?
Eh bah, alors, le premier, c'était en 2004 ou 2005. Donc, c'est à peu près un tous les ans, quoi.
Ouais, ouais.
Voilà.
Beau rendement. Et tu nous parlais aussi d'alternance entre projets solo et projets avec d'autres.
Ouais, en fait, je différencie les projets de live et de concert, enfin, et d'enregistrement. Dans mes albums, il y a beaucoup de musiciens invités, bah, comme dans le morceau qu'on vient d'écouter, Al Moulin avec qui. Donc, dans chaque album, j'essaye un peu de colorer en invitant d'autres musiciens de différents styles, en gardant toujours les compositions et les arrangements. C'est tout moi qui suis un peu derrière mon home studio, quoi.
Il y a de la MAO beaucoup derrière, alors ?
Ouais, pas mal, parce que j'ai pas beaucoup de matériel, quoi. J'ai un ordinateur avec deux micros. Mais donc après, quand j'ai besoin d'enregistrer d'autres parties, ouais, je vais dans un autre studio, quoi. Je me débrouille toujours à droite à gauche. Mais ouais, je passe pas mal de temps en studio. Dans l'édition des parties, de moins en moins, je dirais. Mais après, ouais, tout ce qui est mixage, production, ça prend vite beaucoup de temps, comme tu le sais. Et par contre, en live, bah, je joue avec plusieurs formations. Notamment, donc, j'ai un trio jazz. Sinon, j'accompagne régulièrement des cours de danse flamenco. Donc, après, on a un groupe de flamenco avec la compagnie complète, hein, avec la danse, le chant, tout ça. Donc là, c'est plus sur Genève.
Citez ces groupes, hein, le trio jazz.
Le trio jazz, c'est le trio de Marc Meyer, qui est pianiste-chanteur. Voilà. Et le groupe de flamenco, bah, c'est Los Cabales. Après, c'est des projets ponctuels. Des fois, ça peut arriver aussi que je joue de la guitare juste pour un groupe comme ça, occasionnellement.
On parle de musique indépendante. T'arrives à en vivre ?
Ouais, j'arrive. Et je suis d'autant plus content que j'arrive à vivre de ma musique, ce qui est pas évident à l'heure actuelle, parce que avant, j'étais intermittent et je jouais avec beaucoup de groupes. Je donnais des cours de guitare aussi en parallèle. Et puis, bah, voilà, progressivement, j'ai essayé de resserrer, de faire vraiment les projets qui m'intéressaient le plus, en mettant toujours en priorité les compositions. Et là, depuis que j'ai commencé les concerts dans les chapelles, en fait, ça allait vraiment crescendo. C'est-à-dire que quand j'ai commencé il y a 3 ans, j'ai eu, je sais pas, 3-4 concerts. L'année passée, j'en ai eu un peu plus, une dizaine, en commençant à aller en dehors de la Haute-Savoie. Et puis, cette année, là, c'est carrément la tournée, quoi. C'est-à-dire qu'on est parti des Pyrénées, on va jusqu'en Bretagne et on a... Il y a plus de 30 concerts juste avec les concerts en chapelle et en église, quoi.
Avant, j'étais intermittent, c'est-à-dire que maintenant, tu ne l'es plus ?
Non, non, bah, parce que la plupart des concerts dans les chapelles et les églises, c'est essentiellement au chapeau. Donc voilà, mais ça ne me manque pas plus que ça. Mon but, de toute façon, ce n'est pas d'être millionnaire, hein, c'est de faire avant tout, de vivre et de faire la musique qui me plaît. Donc voilà, si un jour j'arrive à gagner bien ma vie avec ma musique, je serais content. Mais voilà, c'est pas l'objectif. Hein. Moi, je suis content comme ça.
Ceci dit, gagner correctement sa vie avec un chapeau, c'est pas mal quand même aussi.
Ouais, les gens sont très généreux en général après les concerts. Et c'est d'autant plus gratifiant parce qu'on se dit que voilà, en quelque part, on gagne ce qu'on mérite, quoi. C'est-à-dire que moi, franchement, pendant les concerts, j'essaye vraiment d'être vraiment là, d'être présent et de... Bah surtout tout seul, c'est pas évident, quoi. Faut être vraiment, vraiment à 100% dans le concert. Et puis à la fin, on a des bons retours, quoi. Et ça fait vraiment plaisir. Les gens achètent les disques, ils viennent discuter. Et là, on est en train de faire un documentaire sur la tournée. On a déjà des belles interviews, des belles réactions, quoi. Donc ça fait vraiment plaisir et c'est très encourageant. Ça motive parce qu'il y a des périodes où, enfin cet hiver notamment, pour organiser la tournée, il y a des moments où on se dit c'est trop de boulot, on va pas y arriver parce que c'est l'administration française, c'est difficile et les fonctionnements à chaque fois différents. Mais au moment de la tournée, c'est un peu, on n'a plus qu'à jouer de notre musique et à prendre notre fourgon et aller d'une ville à l'autre, c'est que du bonheur, hein, franchement. Je pense que ce que les gens aiment dans les concerts, surtout, c'est Et ce que j'essaie de mettre en valeur, c'est la diversité, quoi. C'est-à-dire que quand je donne un concert, je dirais pas qu'il y a pas deux morceaux qui se ressemblent, mais par exemple, là, je t'ai joué un morceau tout à l'heure, mais il y a vraiment des morceaux un peu aux influences classiques, un morceau un peu indien, il y a beaucoup d'improvisation. Des fois, je fais un petit cliché tango. c'est un voyage musical à travers la guitare, quoi. Et les gens n'ont pas le temps de s'ennuyer, c'est pas trop long, je fais pas non trop long non plus. Et j'essaye de changer un peu à chaque fois le répertoire. Je pense que c'est ça qui me plaît aux gens, quoi.
Même ceux qui voudraient te suivre de chapelle en chapelle n'auraient pas le même concert de soir en soir.
Non.
Ah,
non.
C'est pas mal ça, il faut le dire, pour les futurs fans. S'il y en a déjà peut-être. Arnito, tu nous parlais aussi de vivre de ta musique, mais parallèlement avec toutes ces productions d'albums, c'est aussi toi qui les produis tout seul. Ouais. On a entendu la tournée, c'est toi qui l'as. Donc t'es tout, quoi. T'es manager, diffuseur, producteur, bah, exécutif et.
Ouais, je serais
artistique.
Tenté. Alors il y a ma femme, mon épouse, qui m'aide pour les concerts. Ouais, sinon c'est beaucoup de travail dans la production des albums, oui. Les albums sont essentiellement distribués sur Internet. Les gens peuvent les trouver sur tous les sites Amazon, Deezer. Donc là, il y a un label qui les met en ligne, quoi, en téléchargement. Pour tout ce qui est concert, ouais, j'aimerais bien, en fait, à l'avenir, trouver justement quelqu'un qui gère cette partie pour vraiment me concentrer que sur la création, quoi, parce que c'est vrai que ça prend de l'énergie aussi. C'est vraiment l'entreprise familiale, je dirais.
Ouais. Mais tu arrives quand même à produire bientôt 13 albums, ce qui est quand même assez fou, je veux dire. Ça te coûte combien un album pour toi, par exemple?
Pas grand-chose. Pour moi, ça me coûte rien parce que la plupart sont pas sous forme de CD. Enfin, il y en a quelques-uns, mais par exemple, Ear, là, donc on a écouté l'album tout à l'heure, celui-là, il était en crowdfunding. Donc, c'était par Kiss Kiss Bang Bang. Donc, c'est des gens qui ont précommandé l'album.
Ouais.
Voilà.
Ouais.
Donc ça a financé le pressage, mais sinon la plupart je les mets que sur internet, donc ça coûte 30 euros de frais pour le label. Sinon après c'est mon studio, donc ça coûte surtout beaucoup de temps. J'ai pas de frais de mixage vu que c'est moi qui le fais, pas de frais de... C'est tout en fait, la pochette, voilà. Puis les musiciens c'est toujours des échanges, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment des amis qui viennent... Je leur dis, tiens, j'ai besoin d'un violon là, Dorine, est-ce que tu peux pas venir? Elle me fait, oh, bien sûr, pas de souci. Et il passe chez moi, il enregistre. Et puis après, en échange, voilà, on joue, on fait des concerts ensemble. Et je peux pas parler de business par rapport à mes albums. Hein, Mais en tout cas, je remercie énormément tous les musiciens qui participent, parce que sans eux, les albums seraient pas les mêmes, hein, c'est sûr. Ouais.
Tu parles pas de business, mais tu parles d'un nouveau business quand même, qui est celui du partage, de l'échange, et ça c'est important de le dire.
Ouais.
Arnito, tu nous as choisi plusieurs autres morceaux pour qu'on fasse justement un petit peu le tour de tes propositions, de ton éventail musical. Tu parlais de ce violoniste, je crois que tu en avais choisi un avec lui, c'est ça ?
Alors, c'était sur l'album Achaïn Trio.
Ouais.
Achaïn Trio, donc c'était le morceau qui s'appelle « Le quarter du samedi soir ». Donc ça, ce trio, on l'avait monté il y a quelques années, donc avec Dorin Gall, qui est violoniste roumain, et Olivier Delplanque, qui est contrebassiste. Donc voilà, cet album, c'était un mélange en fait de flamenco, de musique tzigane et un peu de jazz. Voilà, je vous laisse écouter.
Thank you.
retour sur RDIWA, toujours avec Arnito. On vient de s'écouter le quarter du samedi soir, Achain Trio, un de tes 12-13 albums qu'on peut retrouver sur Internet, tu nous le disais. Comment est-ce que tu travailles, tu vois, comme musicien, les petits secrets de la compo, Arnito?
J'ai pas vraiment de... Je pense que l'inspiration, elle vient par moment, et puis ça se contrôle pas vraiment. Mais d'une manière générale, je dirais que souvent... Ouais, c'est plus quand on a du temps, qu'on est posé, qu'on n'a pas d'impératif, de contraintes. Même des fois, une chose dans la journée, hop, ça, et l'inspiration peut se sentir bloquée. Moi, j'ai plus d'inspiration le soir, en général aussi. Et puis, quand on voyage et quand on rencontre des gens, ça nourrit aussi l'inspiration. Ou par exemple, en fait, chaque projet peut être complètement guidé par une étincelle qui allume le feu, quoi. Par exemple, il y avait un de mes albums, c'était « De la naissance à la mort ». Donc là, c'est un peintre qui m'avait dit « Tiens, je voudrais faire... J'ai une thématique, là, je voudrais faire un spectacle de mime-théâtre autour de ce thème. Est-ce que tu pourrais pas m'écrire la musique ?» Et tout de suite, ça m'a inspiré. Et l'album est venu comme ça. Là, pour le dernier en date, là aussi, c'était Thébaïde. Donc là, c'était mon épouse donc, qui est masseuse, thérapeute, et qui m'avait dit un jour « Ah, mais tiens, tu pourrais faire un album d'une heure, alors ça c'était cadré, une heure pour une séance de relaxation, massage et tout ça. Et voilà, l'album est parti de ça aussi.
Ah, donc elle utilise cette musique pour masser ?
Quasiment intégralement, ouais. Elle n'aime pas deux petits passages, un peu la petite touche contemporaine, quoi. C'est mon problème.
T'as raté deux morceaux, quoi.
Ouais, mais c'est juste, c'est pas grave, c'est juste deux petits clins d'œil de 2 minutes, voilà. Elle dit que ça casse un peu le rythme, mais voilà. Donc du coup, finalement, l'album.
Ouais, t'as quand même le droit de créer ce que tu veux, quoi.
Voilà, non, ouais. Ouais. Non, mais voilà, après elle l'utilise ou pas, je m'en fiche. Hein. L'album est là et moi, il est. Voilà, c'est quelque chose qui a été fait et ça, c'était le déclencheur de l'album, quoi. Après.
C'est excellent, ça, parce que les gens reconnaîtront peut-être. Moi, j'ai un dentiste ici dans le coin qui met de la musique toujours en fond. Je sais plus ce que c'est, mais c'est très sympa. Un peu de musique qui cache le bruit de. Voilà.
Ouais, exactement. Et puis, c'est d'autant plus sympa de faire des choses. Musical, que on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui utilisent des musiques. Des fois, on se dit « Oula, mais ouais. C'est de la musique !» Genre, il y a une nappe de synthé pendant une heure avec un petit changement d'accord à un moment, puis un petit oiseau derrière. Comme ça fait... Des fois, c'est un peu de la musique à la chaîne, quoi. C'est un peu un business aussi, quoi. Hein.
C'est
donc...
ce qu'on trouve dans des magasins, là, à Lyon, là, comment ça s'appelle ? J'ai envie de le citer, attendez, il faut que ça me revienne. Nature et découverte, voilà. Le son nature et découverte. Hein.
Ouais, je pense qu'il y a une partie... Après, quoi que nature et découverte, j'ai écouté, il y a quand même des choses...
Sympa.
C'est plus... Après, je ne veux pas dire où exactement on les trouve, mais en tout cas, j'ai entendu certaines musiques de thérapie. Je ne sais pas où on les trouve, mais on les trouve quelque part. Hein. Sinon, l'inspiration, ça ne se contrôle pas vraiment. Des fois, on peut se dire, un jour, on se dit, voilà, on a un peu le moral en bas et on n'a plus envie de jouer de guitare, on la met de côté. Puis le lendemain, on est, ah, mais du coup, en fait, et puis là, on prend la guitare et genre, on a 15 idées qui viennent. Et... Ouais, ça ne se contrôle pas vraiment. Mais je pense que l'état psychologique, il joue beaucoup.
Tu as parlé d'une manière un petit peu générique, mais j'en ai eu un paquet des musiciens ici et il y en a qui ont vraiment des techniques obligatoires, aller se mettre au bord d'une rivière.
Dans mon cas, ouais, d'être au bord de la nature, paisible, c'est vrai que ça facilite les choses, quoi. Plus que, en fait, je dirais plus on a de choses autour de nous. C'est vrai que quand je suis chez moi, que j'ai pas la télé, tout ça, mais quand même on a des choses, on a notre petite routine, on a des choses à faire, il faut aller préparer à manger, tout ça, et du coup ça casse le rythme. Alors que quand on a vraiment rien, comme enfin avant je travaillais juste avec ma guitare, j'avais juste ma guitare sur le dos et un papier, un crayon, et genre je me posais, j'avais rien d'autre à faire, donc forcément on est productif, quoi. Ouais.
Quel autre album voudrais-tu nous faire découvrir? Peut-être musique de mon monde, puisqu'on entend musique du monde. C'est d'ailleurs un terme générique que je trouve assez bâtard, ça.
Ouais.
Est-ce que tu as un avis sur la world music?
Ouais, c'est un terme générique comme l'est devenu le jazz aussi. Hein. C'est vrai, oui. On va voir les festivals de jazz maintenant, il y a un peu de tout aussi. Hein, ça... Donc musique
vrai.
Du monde, ouais, c'est un terme générique. Après, on peut. C'est pour ça qu'après on fait des catégories aussi dans les musiques du monde. Hein. On dit après. Voilà, brésilien, flamenco, indien. Mais c'est vrai que c'est un terme générique. Là, pour le titre de l'album, justement, c'était pour dire que c'était influencé des musiques du monde, au sens large, justement, comme tu le dis. Mais vu que c'est pas traditionnel, voilà, bah c'est mon monde en fait finalement.
C'est ça que j'allais te dire en fait. Est-ce que Musique du Monde met en avant le côté traditionnel que tu avais décrit tout à l'heure en disant voilà, cette tradition n'est pas faite pour être figée dans le temps. Mais est-ce que c'est ça que ça veut dire un peu ce terme générique en général? Musique traditionnelle de pays
Je pense que le terme musique du monde, oui, il est utilisé pour mettre en valeur justement les couleurs et les traditions du monde. Après, dans l'album Musique de mon
Voilà,
monde,
c'est pour
que
ça que
je l'appelais comme ça, parce que justement, c'est mon monde au sens musical, mais aussi au sens. Je pense qu'il a été, mon monde a été influencé par toutes les rencontres et mon vécu. Donc en fait, finalement, c'est quelque chose d'assez personnel, et voilà.
Et là, tu nous as choisi deux morceaux qu'on peut même s'écouter l'un après l'autre. Est-ce qu'ils ont des liens ou justement pas?
Alors, ils n'ont pas de lien, non.
Super.
Alors, le premier morceau, c'est Tout simplement. Donc, ça, c'est une petite valse assez simple, très acoustique. Et l'autre s'appelle Shahane Ortamia. Donc, c'est une expression en turc, parce que donc mon épouse est turque. On s'est rencontrés en Turquie. Et c'était en clin d'œil à notre premier voyage en Turquie. Où tu veux venir dire ce que ça veut dire?
Ah, comme ça, on l'aura à l'antenne.
Shahane Ortamia, c'est un lieu magnifique. En fait, c'est pas en lion, mais c'est en esprit. Voilà.
C'est le
Oui,
positif, positif, quoi.
c'est magnifique.
Thank you.
Arnito avec nous sur RDIWA. D'ailleurs, donne-nous le nom de ta femme. Là. C'est, maintenant qu'elle vient de passer à la radio, je vais être obligé de la noter.
Nazan Aksoy.
C'était deux extraits de cet album Musique de mon monde, un de tes nombreux albums, Arnito. Et comme on arrive bientôt vers la fin de cet entretien ensemble, est-ce que tu voudrais nous donner les endroits où on peut te trouver, les dates de ta grande tournée qui arrive, etc. etc. Alors déjà un site internet, hein, www.arnito.net, c'est tellement facile.
Alors, pour les dates de la tournée, je vais te donner celles qui passent dans le coin, hein, parce que ça sert à rien que je donne les
ouais,
autres.
Ouais, les autres sont sur ton site.
Ouais, c'est tout sur le site. Donc, bah, dans la Drôme uniquement, je vais te donner celles dans la Drôme. Donc, le mardi 4 août, à 20h30, à l'église Saint-Pierre à Dieulefi. Il y a le jeudi 6 août, à 20h30, au temple de Beaurières, le vendredi 7 août à 20h à la chapelle de la Chaudière, le samedi 8 août à 20h30 au temple d'Aurel, c'est tout dans la Drôme.
Voilà. Enfin, c'est tout dans le Diwa presque, à part Dieulefi, voilà, t'es resté très local. On parlait de ton site internet et puis des albums que tu distribuais via un label. Est-ce que tu as un mot à dire aussi sur la musique qui circule de manière illégale sur internet ?
Bah écoute, moi honnêtement, je pense qu'il y a du positif et du négatif, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un peu dommage que l'artiste soit pas rétribué sur les téléchargements et tout. Donc c'est quand même aux personnes à prendre leurs responsabilités s'ils le souhaitent pour trouver une façon alternative de donner aux artistes.
Par exemple en concert.
Voilà, exactement. Mais je pense que j'aime pas trop les obligations et dire voilà, faut faire ça, faut faire ça. Parce que je pense que le fait que les gens téléchargent même s'ils payent pas et tout, bah c'est quand même une sorte après. Par exemple, s'ils aiment bien, ils peuvent le passer à une autre personne, à une autre personne. Et finalement, ça permet aussi de se faire connaître un peu et... Peut-être indirectement, ça peut toujours ramener quelque chose, quoi.
Donc, voire d'être écouté dans des endroits auxquels tu t'attendrais pas.
Exactement.
Du tout.
Donc, après, moi, de mon point de vue, j'ai pas. De toute façon, je compte pas spécialement sur mes ventes d'albums pour vivre. Donc, c'est pas forcément une mauvaise chose, voilà.
Et ce label, à part te taxer 30 euros, est-ce que tu as d'autres types de taxes comme ça ? Est-ce que ta musique est déposée, par exemple,
ouais,
chez SACEM Levant ?
Ouais, la SACEM, ouais.
Ouais.
Alors, par contre, ce que je trouve dommage, ouais, c'est que par exemple, quand je fais un concert, déjà que le concert au chapeau, si en plus après je dois payer la SACEM pour le concert.
Ah oui, comme tu es organisateur de tes propres concerts, c'est toi qui dois payer ta propre SACEM.
En théorie, quoi. Après.
Oh là là.
Voilà, alors que je joue mes propres compositions, mais des fois, je joue dans un endroit, puis un article dans le journal, et la SACEM m'appelle pour me dire mais vous avez payé là, la taxe pour jouer dans. À l'église, mais je leur fais, mais pourquoi c'est mes compositions ? Ah oui, parce que c'est comme ça, on va vous en reverser une partie après. Du coup, des fois, l'administration, je trouve que c'est un peu. Ça se mord la queue, quoi. Je trouve que. C'est peut-être un peu utopique, mais voilà, il y a un lieu pour faire un concert et l'artiste, il vient pour jouer sa musique, il n'a pas à faire 50 papiers pour justifier en plus de jouer ses propres morceaux, quoi. C'est un peu aberrant, je trouve. Ça ne met pas trop en valeur, ça facilite pas vraiment la. Ça encourage pas vraiment toujours la création, quoi, je trouve. Mais bon, c'est pas toujours comme ça, heureusement.
D'autant plus étonnant ce que tu dis que je ne pensais pas que la SACEM avait le même comportement avec les musiciens qui organisent eux-mêmes leur propre soirée de concert, puisque, sache-le, tous les organisateurs, hein, quels qu'ils soient, s'ils t'invitent dans une soirée, ils la paieront eux aussi, la SACEM.
Ouais,
voilà.
Ouais.
Mais c'est vrai que c'est étonnant de s'attaquer à l'artiste pour qu'il paye des droits pour faire fonctionner la SACEM, pour en retoucher une partie.
Ouais.
C'est assez fort de café. Bon, voilà, en tout cas, cette antenne, la SACEM, c'est pas vraiment nos amis et de plus en plus on commence à comprendre pourquoi. Arnito, écoute, on va se quitter maintenant avec un dernier morceau qui vient de cet album Mi granito de quoi ? T'as pas
des
mis
sales.
Des sales.
Alors ça veut dire mon petit grain de sel.
Oui.
Alors le morceau que j'ai choisi s'appelle Eterae. Donc l'album en question, Mi granito de sal, c'était un album il y a quelques années aussi autour du flamenco fusion. Et ce morceau, donc c'était avec en trio zarb, clarinette et guitare.
Zarb.
Zarb, c'est une des percussions iraniennes, comme vous allez entendre dans le titre. Voilà, et donc c'est une composition en trio. Thank you.
Arnito, avant de se quitter, est-ce que tu voudrais une parole libre ?
Bah, j'ai une parole libre, je vais laisser parler ma guitare si tu veux.
Ouais.
Donc je vais te jouer un morceau un peu plus traditionnel. C'est une solea en fait. En fait, des variations que j'avais écrites autour de la solea. La solea, c'est un style de flamenco qui exprime la solitude et tout. Voilà.
Merci.